Vous écoutez
RMC.
Je suis désolé, je te l'ai déjà dit hier, Jean-Louis, j'aime bien qu'on dise France RFA.
Oui, bah,
pour moi, ça raconte quelque chose de bien dire France RFA.
Eh bien, allons-y pour France RFA 86, donc, à Guadalajara, au Mexique, dans le même stade qui avait vu ce quart de finale magnifique, donc, auquel Daniel faisait référence. On l'a tous en tête, le France-Brésil, qualification au tir au but, peut-être le plus beau match de l'équipe de France dans une Coupe du Monde, non, Daniel, je t'entends dire ça parfois.
Le France-Brésil, ouais.
Enfin, de cette génération, en tout cas.
Ah, monsieur,
c'est sûr. Cette génération, c'est sûr.
Match en Coupe du Monde.
Ouais.
Ouais, parce que le France-Brésil 2006 est bien, mais ça vaut malgré tout pas celui de 86.
On est bien.
Bah, on n'a pas un regard romantique aussi.
La finale de 98, par les émotions qu'elle procure, évidemment, ça fait quand même 3-0 final. C'est lourd, c'est fort, c'est extraordinaire. Footballistiquement parlant, le France-Brésil 86 est supérieur.
On n'est pas loin d'être dans les cornes quand même.
Et même en émotion, parce que le France-Brésil de 86, en émotion avec ce qui se passe dans le match, oui, plus la séance de péno à la fin, même en émotion.
Le péno raté, Zico,
oui, et Platini pendant la
saison. Honnêtement, pour moi, c'est le plus grand match en Coupe du Monde. Ouais.
C'est donc après ce plus grand match que les Bleus disputent cette demi-finale donc face à la RFA.
Je voulais dire France-Afrique du Sud, mais je suis pas sûr d'être suivi. Quoi.
Afrique du Sud, c'est bien pour l'ouverture.
Pour moi, c'est le plus grand match.
Quel sale type.
Non, c'était juste pour te réveiller. Il avait peur qu'on s'endorme un peu.
Non, mais je vous écoute, ça me plaît, ça m'intéresse.
C'est le but que ça te plaise.
Les auditeurs aussi, c'est le but.
Bien sûr. Donc France RFA 86, est-ce qu'il y avait vraiment ce climat de revanche 4 ans après ?
Évidemment. Évidemment, sauf qu'on l'a super mal abordé. Tout le monde y pense. Ouais. Mais le pire, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on a cru 4 ans après, et malgré une expérience du foot et de la qualité des Allemands et de leur potentiel qu'ils ont toujours eu et toujours eu énorme, c'est de croire que ça allait être facile. Ça, oui, moi, je reviens toujours pas de l'approche de ce match, de se dire...
On a fait le plus dur
avec la fatigue du Brésil, avec ce que ce match avait pompé comme énergie, de se dire les Allemands sont moins forts, les Allemands ont pas l'air brillantissimes.
Et nous on est plus forts aussi, peut-être, parce que là t'arrives avec des références. T'es champion d'Europe, Brésil, t'as sorti l'Italie, t'es champion d'Europe.
L'Allemagne a été nulle en 84, je crois. Pas
à l'Euro, ils étaient cata à l'Euro. Comment on a pu aborder ce match aussi mal d'un point de vue psychologique? Ça, c'est énorme.
Si je me rappelle bien, il n'y a jamais eu de suspense.
Non, oui, sur le match, effectivement. Et pour nous, tu nous disais le parcours de l'Allemagne à cette Coupe du Monde n'est pas bon non plus.
C'est catastrophique. Dans leur groupe, ils se font battre par le Danemark, ils finissent deuxième. Ensuite, en huitième, ils tombent le Maroc. C'est Matthäus qui marque à la 89e. En quart, ils passent au pénalty contre le Mexique et ils arrivent en demi-finale en n'ayant pas joué un seul match correct. Et par contre, comme je te disais, Jean-Louis, je l'ai revu à midi. Et ce qui est très intéressant, c'est non pas la violence des joueurs français, mais en fait, il y a un nombre incalculable de tacles. Comme s'il fallait apprendre de 82 et entre guillemets répondre aux Allemands, comme si l'expérience passait que par la violence entre guillemets pour le.
C'est pas parce qu'ils étaient crevés. Quand t'es crevé,
non, mais ça se voyait.
Quand t'es crevé, tu finis là-dedans, en général.
Oui, alors c'est ça. Les Français sont fatigués. Platini est blessé aussi, comme d'hab. Comme à chaque Coupe du Monde.
Il joue toute la Coupe du Monde sur une jambe, ça c'est vrai. Louis, c'est un petit peu celui qui a pas vécu 82 sur le terrain et qui en plus c'était un tempérament fougueux. Il en fait des tonnes et je crois qu'il prend vite un carton qui aurait pu le priver de la finale.
89e le carton, je crois.
On veut mettre un peu le pied. Quoi. On veut y aller quoi.
Je vous redonne la compo des Bleus. Donc, avec pas mal de changements quand même par rapport à 82. Donc, Joël Batz est dans les buts. Donc,
c'est un nouveau.
Exit
donc,
Jean-Luc Ettori.
Ça y est, on a un gardien.
Qu'est-ce que j'aime bien ce gardien. Joël Batz, c'est un sacré gardien.
Magnifique. Excellent face au Brésil en plus. Il va chercher un pénalty monstrueux.
Moins contre l'Allemagne.
Voilà, moi j'allais venir. Moins contre l'Allemagne, effectivement.
Amoros. Il prend un lob, je crois, un peu miteux.
Ah non, il prend surtout un coup franc.
Un coup franc où il se déchire.
Ah oui, c'est vrai.
Il fait brioche. Ouais.
Exactement. Donc Batz dans les buts. Amoros, Batiston, Bossis et Ayash en défense.
Donc là, il y en a 3 sur 4 qui ont vécu Séville.
Exactement.
Pas mal du tout. Pas mal du tout.
Le carré magique où Luis Fernandez remplace Gengini, donc aux côtés de Platini, Gires et Tigana.
Donc là, 3 sur 4 encore.
Exactement. Et en attaque, donc là, 0 sur 2, Bellone et Stopira. Voilà. Sachez que Vercruis et Xuereb vont rentrer. Et côté allemand, il y a un petit renouvellement, quand même, ouais, Polo.
Il y a un petit renouvellement. Bon, évidemment, c'est... Mais en fait, je voudrais juste rappeler trois anecdotes qui me sont importantes, qui sont la suite de 82 et ce que se posait comme question Julien tout à l'heure. C'est qu'en fait, c'est une sale Allemagne aussi dans les couloirs. C'est-à-dire que Uli Stein, le gardien, a été renvoyé en Allemagne parce qu'il a traité d'idiot, qu'il a traité de clown, pardon, le sélectionneur Beckenbauer. Il y a le sélectionneur qui a traité son attaquant Dieter Hoeneß, le frère d'Uli Hoeneß, d'idiot complètement. Et sauf que Dieter Hoeneß, il a répondu en disant « Je sais très bien comment tu es monté physiquement parlant et tu sais très bien que j'en ai des plus grosses que toi. » Donc, ça se passe comme ça systématiquement.
C'est
bon,
ça, c'est l'Allemagne qu'on aime.
Voilà. Les Allemands, ils se balancent des trucs à la gueule, c'est bien.
C'est génial.
Mais j'adore. Et Karl-Heinz von Rummenigge, vous savez qu'il est souvent blessé aussi, Rummenigge, et il attaque ce qu'il appelle le clan de Cologne, c'est-à-dire les joueurs comme Schumacher, comme Klaus Allofs, comme Litbarski, etc., en disant que c'est à cause d'eux, parce qu'il lui envoie des mauvaises ondes, etc., et qu'il est blessé. C'est un peu spécial. Alors,
pour une belle bande de connards, là, quand même. Hein
non, mais moi, j'adore. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, évidemment, dans les buts, c'est Schumacher.
Ouais.
Il y a une défense à 5, en fait. Alors, il y a Karl-Heinz Foster qui est encore là. Il y a le défenseur central du Bayern, Eder, donc, qui est théoriquement associé à Eugen tout à l'heure, mais qui était sur le banc. Il y a beaucoup de joueurs d'Hambourg, avec Jacobs notamment. Il y a Bremeux à droite et Brigel à gauche. Le milieu de terrain, c'est un joueur que j'adore, qui est Wolfgang Rolf, l'ancien joueur d'Hambourg. Il y a Matthäus qui joue à l'époque plutôt en numéro 8. Et puis il y a trois attaquants qui sont Magath, Klaus Allofs et Karl-Heinz Rummenigge.
Oh, les jolis noms. On peut pas mettre du Wagner pendant que tu parles.
Et puis, comment s'appelle, il y a Rudi Völler qui rentre à l'heure de jeu à la place de...
Exactement.
Donc, c'est le deuxième but.
Exactement. Plus. Alors, ce match aussi est moins resté, peut-être, hein, je vous pose la question, dans l'imaginaire, parce que...
Il n'y a pas de match.
Déjà, alors, parce qu'il n'y a pas de match, mais aussi, le stade à moitié plein, j'ai vu, genre, de manière assez incompréhensible, mais bon, il y a 35 000 personnes sur 75 000 possibles.
Donc, pourquoi déjà.
Alors, pourquoi, ça, je ne sais pas. Je n'ai pas bien compris. Vous savez pourquoi?
Mais je sais pas. Non. Franchement, déjà parce que t'es pas en Europe, hein.
Non, mais pour une demi-finale de Coupe du Monde,
normalement, les demi-finales, c'est plein. Non, mais je me souviens d'une ambiance triste. En plus,
un match mal retransmis, en plus.
L'image est super terne. Ouais. Match effectivement retransmis bizarre. On a même l'impression que le maillot des Bleus, il est complètement délavé.
Alors, vois, pour montrer comment
les Bleus étaient en blanc, d'ailleurs.
Comment les Français sont passés à côté, notamment en première mi-temps. Il y a une passe à 10 pendant un moment des Allemands et ça chambre dans le stade. C'est quand même assez rare, je veux dire, pour l'équipe de France de se faire chambrer ou parce que les autres font la passe, parce que les Allemands font des passes à 10. Donc c'est la première mi-temps française est catastrophique. Ils ont essayé de revenir en seconde mi-temps, mais en tout cas, il est évident que le match contre le Brésil était dans les jambes et voilà, c'est pas du tout la même chose.
Et dans la tête.
Et dans la tête. Et il y a des fautes techniques que j'ai rarement vu à ce niveau-là côté allemand et côté français. Platini rate beaucoup de choses. Il se casse la figure aussi sur le terrain. Il y a beaucoup de fautes techniques.
À un moment, il a un bon coup franc, les coups francs qu'il adore, et il le rate, mais jamais je l'ai vu rater un coup franc pareil. Ils sont tous super nerveux. Ils comprennent pas pourquoi ils arrivent pas à prendre leur revanche alors que ça leur a été promis. Je sais pas, c'est tout est.
Est-ce que c'est pas la première fois qu'on abordait un France-Allemagne en étant favori? Franchement.
Aussi, il doit y avoir un peu de temps. Non, mais toute la
prochaine. Non, mais quand t'es champion d'Europe, t'es favori quand même.
Oui, bien sûr. Non, mais ils étaient favoris. Mais toute l'approche est foireuse de se dire que ça allait tomber tout cuit. Parce qu'en gros, le destin avait été tellement dur 4 ans avant que ça allait tourner, qu'on était plus fort qu'eux. Enfin, tout est pourri dans l'approche de ce match.
Il y a le parcours.
Tu fais Italie-Brésil quand même.
Bien sûr, tu fais Italie-Brésil, t'es au
top. Il y a l'Union soviétique qui est monstrueuse à l'époque, la France tient le coup. Tu bats les champions du monde en titre en 8e, il y a le match contre le Brésil. C'est ça l'énorme paradoxe d'ailleurs entre 82 et 86, c'est qu'alors qu'en 82, la France n'a pas fait un parcours extraordinaire, il y a ce match magnifique, et là où elle fait un parcours extraordinaire, comme si elle jouait un tournoi de Roland-Garros avec des spécialistes de terre battue qui sont dans le top 10 mondial, et ben là, elle rate le match qu'il faut pas rater, c'est alors qu'elle est
son favori. C'est justement, l'erreur, c'est que l'Allemagne n'est pas impressionnante du tout dans les matchs d'avant. Et là, consciemment ou inconsciemment, on est favori, on se pense favori, mais c'est même pas qu'on se pense favori, on se pense vainqueur contre cette équipe d'Allemagne qui a du mal à éliminer le Mexique, le match d'avant, et qui est vraiment très moyenne.
Est-ce que le grand regret autour de tout ça, c'est pas Platini? Parce qu'il arrive là quand même avec ses ballons d'or, installé à la Juve, il a 29 ans, ça doit être la Coupe du Monde de Platini. Et à l'arrivée, il est blessé, c'est peut-être lui qu'on attend à ce moment-là, dans ce match compliqué, pour sauver tout le monde.
Non, il a mis Platini, il est au bout physiquement, sa retraite va venir assez vite, hein, finalement.
Ouais, mais il est au bout, Daniel, mais rappelle-toi qu'il marque contre l'Italie, il marque contre le Brésil, t'as toujours l'impression que à un moment donné, il va quand même faire un truc.
Bah parce que tu attends qu'il te sauve, mais en fait, Il est
là, non.
Voilà. Il marque contre l'Allemagne, mais il est hors jeu.
Oui, exactement. Oui. Il y a le l'égalisation qui est refusée à ce moment-là, exactement. Puisque donc Brême ouvre le score à la 9e minute sur ce coup franc. Alors là, on se plaignit de Jean-Luc Ettori en 82. Là, Joël Batz, bon, il l'avoue d'ailleurs après. Hein,
que, il joue pas du tout en blanc, les Français. Qu'est-ce que tu m'as dit, Jean-Louis?
J'ai rêvé en bleu, en fait.
Je me suis dit, qu'est-ce que merde, je perds la tête.
Non, je suis daltonien. Les Allemands en blanc. Par contre, les Allemands, je crois qu'ils jouent en vert en finale. C'est ça.
Oui, ils jouent en vert en finale. Ça, oui. Ça, les Allemands jouent en vert en finale. Contre l'Argentine, ça oui.
Ah, j'ai confondu avec la finale.
Non, mais effectivement. Coup franc, là, avec Batz qui fait, oh là là, c'est affreux.
Oui, alors le coup franc.
C'est la force de Brême aussi. Hein.
Non.
Brême, il est monstrueux. Non,
franchement, la frappe, elle est lourde.
Non, mais attendez, là, c'est une erreur de gardien. Je suis désolé pour Joël Batz.
Moi, je fais confiance à Jean-Louis.
Mais il n'y a pas de débat. Enfin, je ne sais pas, coach.
Spécialiste gardien par Bossis. Alors, c'est vrai qu'il avait. Je sais pas,
il est en jeu aussi.
Dans cette position-là.
Pour moi, 100% fautif.
Ah, Batz.
Oui, bien sûr qu'il est fautif sans le but, bien sûr. La frappe, elle boîte est lourde, elle lui arrive dessus.
Il est insupportable, ce polo.
Alors, on apprend un deuxième truc, parce que après, donc, les gardiens, c'est ton truc. Donc, il y en a un qui n'a pas fait faute en 82 et l'autre qui n'est pas fautif en 86.
Joël Batz n'est jamais fautif.
Et est-ce qu'il y a vraiment faute avant le coup franc? Puisque tous les Français se plaignent du coup franc à ce moment-là, alors c'est dans le contexte de l'époque. On se plaignait beaucoup de l'arbitrage, mais on voit tout de suite Platini, Tigana se plaindre, dire qu'il n'y a pas faute. Mais bon, Polo, il y avait faute.
Oui, j'ai envie.
Non, mais Batz, il avait peut-être dû dire, tiens, Arconada est devenu célèbre, pourquoi pas moi?
Oui, il y a un côté Arconada, effectivement, dans le coup franc. Mais bon, c'est vrai que la frappe de Brême était forte. Donc ensuite, il y a peu d'occasions pour les Français, à part le but refusé à Platini.
Il y a quand même un Stopira qui se présente seul devant Schumacher à un moment. Et vous vous souvenez de cette image d'un moment, justement, Schumacher prend le ballon et donc Platini va poursuivre, éventuellement s'il relâche le ballon. Oui. Et il fait mine de donner un coup de pied à Schumacher.
Ah oui.
Il retient son pied.
Il fait mine. Je lui aurais bien mis un coup de pied dans sa tronche à celui-là.
Ouais. Alors il y a un raté aussi assez énorme. Alors j'arrive pas à savoir qui c'est là. Je pense que peut-être vous allez pouvoir Daniel va peut-être pouvoir m'aider. C'est un coup franc joué avec une sorte de louche. Un joueur français qui la reprend et derrière le but est quasiment ouvert et
ouais, c'est
le français
qui pas raté.
Ah c'est le raté de Bossis ça.
Il est pas hors jeu Bossis sur ce coup-là.
Si, il est hors jeu Bossis.
Ah je ne sais pas.
On va voir. Ici, il est hors jeu.
Bon, très bien. Alors, Julien, là, hors micro, c'est très compliqué de t'entendre. Hein. On va pas mentir, mais voilà.
Ça m'inquiète que tu ne reconnaisses pas Bossis, quand même, surtout.
Là, bah, excuse-moi.
Ah ouais, non, merde.
Bon, en fait, les Français poussent en seconde mi-temps. C'est,
bah,
c'est
encore heureux, quand même.
Ils tentent, et puis, quand on tente, et ben, on peut se prendre des contres.
Exactement, et c'est
un le deuxième, il est d'une froideur, le deuxième.
Ah ouais, oh, ouais, c'est dur. Ouais.
Le deuxième, c'est vraiment, mais allez. Et va-t'en, va jouer au
billet.
Oui, alors là, donc. Joël Batz fait toujours pas d'erreur, Polo, non?
Ah, si, là, ouais.
Parce que là, il sort quand même très loin, Joël Batz, qu'on aime beaucoup, hein, par ailleurs, hein, qu'on salue.
Joël Batz, il n'y est pas dans ce match.
Non, ouais, il n'y est pas, coach. Il n'y est pas, parce que là, la sortie, il va à 25 mètres de son but et il se fait devancer par voleur. Bon, voilà, ça peut arriver aussi, hein, de mal apprécier une trajectoire.
Non,
c'était rarement à côté.
Bien sûr.
Enfin, là, si on passait là, vu comment on était cramoise, je ne sais pas ce que Maradona aurait fait de nous. Hein, je te dis franchement. Bon, parce que là, je pense que c'était la sienne. De toute façon, c'était sa Coupe du Monde. Hein. Donc, moi, j'ai aucun regret.
Oui, c'est vrai. Oui, parce que derrière, il y a la finale contre l'Argentine.
On est sûr qu'il est hors-jeu, Bossis, là. Je revois la question.
Bah, moi, je ne suis pas sûr, c'est pour ça, mais bon.
C'est parce que je l'ai revu ce.
Alors, attends, ça change tout, là.
Attends, là.
Bah, en tout cas, il la joue comme s'il était en jeu. Donc, bon, quoi qu'il arrive.
Mais t'as vu tous les scandales qu'on aurait pu faire, on n'a pas fait ça.
C'est vrai qu'on nous a un peu parlé de ça. Mais bon, s'il avait marqué, on aurait fait un vrai scandale. Là, il a tiré au-dessus, malheureusement. La finale, qu'est-ce qu'on en dit? Vous avez quoi comme souvenir aussi? Puisque
celle de 86.
Ouais. Elle est magnifique. Magnifique.
Ah bah, oui, la finale de 86, non seulement elle est belle, puis c'est le sacre de Maradona. Tu vois, même s'il ne marque pas sur cette finale, il est partout, il est fort.
Enfin, fait une passe D.
Et pourtant, les Allemands arrivent à revenir dans le match.
Hein. Bah, c'est que.
Quand ils reviennent, je me rappelle, bon, les commentaires qu'on faisait devant la télé, une fois de plus, on les pensait cuits et ils vont gagner ce match quand ils reviennent.
Parce qu'il y a 3-2, ils mènent 2-0 dans ce match et les Allemands reviennent à 2-2 avant le but de Buruchaga.
Je
84.
Pense que c'est la dernière fois qu'un Nantais a fait gagner une Coupe du Monde sur un but en finale.
Jean-Louis, en Allemagne, par rapport à cette finale, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, les Allemands égalisent à la 81e face à Föller. Et ils ont tellement pensé la gagner à ce moment-là, la Coupe du Monde, en disant on va attaquer pour flinguer les Argentins, que c'est eux qui se font contrer avec, avec Maradona et Burruchaga. Et ils se sont dit, on a été idiots, on aurait dû attendre tranquillement, les prolongations, parce qu'on sentait que les Argentins étaient cuits. Enfin, ça, c'est la version allemande. Et en tout cas, ils se sont précipités, et voilà ce qui était arrivé.
Voilà. Bon, bah,
je pense que le fait que ce soit Maradona qui la gagne, ça, en France, j'ai l'impression que ça a atténué un peu la tristesse. Il n'y avait pas la même, c'était pas la nôtre. Moi, c'est ce sentiment que j'avais. Après,
c'est une fin de cycle aussi.
Ouais, je sais pas. Malgré le Brésil, moi, j'ai cette sensation-là à l'époque et que je m'étais dit, ouais, c'est celle de Maradona, quoi. C'est la Coupe du Monde de Maradona.
On sent tout de suite la fin de cycle à l'époque.
Absolument.
Ouais, coach.
Pardon.
Oui, on sent tout de suite la fin de cycle.
Pour les Bleus.
Oui, pour les Bleus. Oui.
Si tu veux, on se pose la question quand même.
On se dit que Platini était plus jeune. Platini, on sait qu'il... Non, je ne sais pas si on sait qu'il va arrêter.
Platini, il a 29.
Parce qu'on l'apprend plus tard. Il a encore une saison seulement. Non, attends, Platini, il arrête en 87.
En 87, oui.
Oui, mais après, tu te rends compte qu'après, il n'y a plus de qualification.
Il arrête à 32 ans. Il arrête à 32 ans. Donc, il est né en
35. En 31, c'est jeune quand même. Hein.
Oui, mais après, bon, comme il est blessé et qu'il ne veut plus jouer...
Ouais, coach.
Après cette Coupe du Monde, si je ne dis pas de conneries, il n'y a plus de qualification jusqu'à 98. Mais à 98, on ne s'est pas qualifié parce qu'on était.
Il y a la qualif pour l'Euro 92. Il y a la qualif pour l'Euro 92.
On fait carton plein.
En Coupe du Monde, il n'y a plus de qualif avant.
Coupe du Monde, non.
2006, en fait.
Ah non, la période qui suit, elle est terrible. C'est celle de.
Abominable.
D'Henri Michel.
Non, t'es qualifié. T'as gagné la Coupe du Monde.
Avec le sac à merde de Cantona. C'est celle du match contre Chypre. C'est celle de. Ah non, la période qui suit, elle est terrible. Avec tous les successeurs de Platini qui ne s'imposent pas, les Vercruis, Ferreri,
mais c'est vrai que
Bravo.
Platini qui devient sélectionneur sans expérience.
Ouais.
Mais c'est vrai que les jeunes aujourd'hui, ils ne se rendent pas compte que nous, par exemple, notre génération, pas la tienne, Jean-Louis, celle qui est juste avant, et on a vécu notre enfance, notre adolescence sans Coupe du Monde. C'est-à-dire que 12 ans, sans voir la France en Coupe du Monde, c'est incroyable en fait.
C'est pour ça qu'en 98, ça a été encore plus retentissant.
Bien sûr. Oui, et que vous avez une pression énorme au début.
Ouais, mais là où par rapport à ce que dit Julien, je suis pas tout à fait d'accord, c'est que on était habitué. De ne pas. Moi, quand je suis gamin.
Mais ça faisait
non,
chier
pas,
quand même.
Pas moi. Moi, je suis né au foot avec 82 et 86, donc j'étais habitué après. Hein.
Bah oui, mais moi, enfin, je suis un petit peu avant, peut-être, je sais pas. T'es né
Moi, je suis 74. Hein.
Ah, 71, ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'en suis encore avec mon père à me poser les questions qui on prend en qualif, quoi. C'est-à-dire que c'est
quand on déconne avec les matchs contre la difficile, mais il n'empêche que la France
a commencé à devenir.
Il y a, tu vois, 78 est allé, 82, 86.
Bah oui.
Il commence à y avoir un truc. De fait de pas y aller en 90, c'est comme si tu retombais dans les années noires qu'on nous avait racontées parce qu'on les avait pas vues. Tu te dis, mais merde, pourquoi la Coupe du Monde en 90, on n'y va pas, c'est quand même dingue. Et puis bim, t'enchaînes avec le drame de 93 et tu vas pas aux États-Unis. Boum, là, ça faisait mal.
D'autant plus que les clubs marchaient en plus.
Ça a été décevant en plus.
Ouais. Les clubs marchent bien.
Quand t'achetais le jeu vidéo sur Amiga, la Coupe du Monde, Atari, enfin les consoles de l'époque, t'étais obligé de prendre la Yougoslavie pour faire jancer la France parce qu'ils jouent en bleu. C'est terrible. C'est terrible.
Bon, on en reste là. Moi, je retiens quand même qu'entre Julien et Polo, il n'y a que 3 ans d'écart. Et ça, c'est quand même la vraie info.